9h-11h, La Vie en Bleu, Isabelle Young.
Tous les matins, un expert, rien que pour vous. On a privatisé notre vétérinaire ce matin, rien que pour vous. Il pourra répondre à toutes vos questions. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Comment vont nos animaux en cabinet en ce moment? Qu'est-ce qui se passe?
Ils se les caillent.
Ils se les caillent, donc il y a des petites angines, des rhumes, des
Absolument.
Choses comme ça.
Le cortège.
Voilà, quand on les entend...
Habituel, du chaud et froid.
Éternuer, tout ça. Mais oui, parce qu'on les sent pour... Alors, Jérémy Deligne, notre réalisateur de ce matin, dit comme nous, sauf que c'est vrai que parfois, on croise des chiens qui ont l'air ridicule, mais eux, ils ont chaud.
Il y en a qui ont des manteaux.
Voilà, il y en a qui ont des manteaux, notamment les animaux à poil ras, évidemment.
Pas forcément, non, mais ceux qui sont plus au chaud que les autres.
Voilà,
ceux qui vivent constamment près du radiateur
ou sous la couette, dès qu'ils sortent.
Quand on leur met un coup de pied aux fesses pour aller faire pipi dehors, c'est compliqué parfois.
Voilà, et quand on explique au chat, tu ne peux pas sortir, il fait trop froid, ça leur parle pas, et pourtant, il faut éviter. À quoi on reconnecte notre...
Pour les chats, les souris ont froid aussi, alors c'est quand même assez intéressant.
Mais bon, il n'y a rien à faire si les chats ont...
Elles sont un peu glacées. Hein.
Ah oui. D'accord.
Elles ont l'air meilleures.
Le 05 59 plus fraîche, 05 59 98 09 09. Votre chat, votre chien a un drôle de comportement. Vous avez des interrogations. N'hésitez pas, Nicolas est avec nous ce matin. France Bleu.
24 mars, Dirty Dancing.
Dirty Dancing.
Retrouvez l'histoire originale sur scène. Personnages, dialogues, scènes de danse sensuelles et musique. Revivez toute la magie du film. Dirty Dancing, le spectacle culte, samedi 24 mars à 15h et 20h30 à la gare du Midi de Biarritz. Vos places à gagner sur France Bleu Béarn.
Le 16 mars, au Zénith de Pau, Il changeait la vie. Comédie musicale sur les succès de Jean-Jacques Goldman. Revivez en chanson la carrière de l'un des chanteurs préférés des Français. Il changeait la vie. 8 comédiens chanteurs, 12 danseurs pour un show énergique. Vendredi 16 mars au Zénith de Pau. Place à gagner sur France Bleu Béarn.
Nicolas, notre vétérinaire, votre expert ce matin. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une. En attendant qu'un auditeur arrive sur notre antenne. Pourquoi les chats se précipitent sur les robinets quand on les ouvre? Ça a été un gros... Tiens, notre copine Mila, qui est notre petite stagiaire aussi, se pose cette question. Et on a eu un gros débat dans un bureau il n'y a pas si longtemps. Pourquoi?
La plupart des chats aiment l'eau courante. L'eau qui court.
D'accord.
Et pourquoi? Ben les chats et l'eau, c'est toute une histoire. Hein. Ils peuvent refuser l'eau qu'on vient de leur servir fraîche et aller manger, boire celle des fleurs pourries de la veille.
C'est tellement meilleur.
Mais il y en a beaucoup qui aiment l'eau courante. C'est pas la majorité, hein. Il y en a beaucoup.
Enfin, là, on a fait un sondage. Tous les chats de la radio font ça, hein. Même alors, le chat de Mila.
Ça veut dire que tous les propriétaires de chats de la radio sont des gens attentifs aux exigences de leurs animaux.
D'accord. Autre question. Nous avons deux chats dans la radio et ça intéresse sans doute les gens. Moi, j'ai quand même vu la mienne essayer de tenter de comprendre comment marchait le levier pour essayer de l'ouvrir. Mais elle croit que l'eau sort du levier, en fait. Elle n'a pas compris encore que ça sortait du truc. Mais je l'ai vu tenter le coup, quand même. C'est possible?
Oui, bien sûr, oui. Oui. Les portes, les poignées de porte, les robinets, bien sûr.
Leur observation.
L'ouverture
permanente.
Des KZ, des portes qui est coulissante.
Oui, pour aller se cacher dans les
pulls. Moi, j'avais un chat qui ouvrait les KZ, qui ouvrait le frigo.
Ah oui, c'est très pratique. Donc, il faut cadenasser les KZ, les frigos.
Bien sûr, les chats sont de grands chasseurs.
C'est ça. Bon, alors donc, il faut faire attention, mes enfants, il faut observer. Jacqueline est avec nous. Elle a une question à nous poser, et notamment Nicolas. Bonjour, Jacqueline.
Bonjour à tous les deux. Oui, voilà, je voudrais savoir si c'était trop tôt ou trop tard pour faire opérer ma petite chienne qui a un an.
Donc vous voulez la castrer?
Stériliser, oui.
Stériliser.
Oui, parce que je vais souvent chez mon fils qui a un Jacques Russell et je ne voudrais pas que... On ne sait jamais.
Oh, vous seriez grand-mère.
Ah non, 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 surtout pas.
Alors, c'est une excellente question.
C'est une excellente question. L'âge de stérilisation, il n'y en a pas vraiment. Non. La préconisation, la mienne de préconisation, parce que ce sont des éléments qui sont discutés. Moi, je préconise une stérilisation avant les premières chaleurs.
Avant six mois. Elle les a eues déjà.
Bien sûr, si elle a un an, elle a déjà
eu. C'est pas la cata.
En fait, la stérilisation prépubère permet d'éviter la prise de poids qui arrive de temps en temps. Elle constitue une prévention presque parfaite des tumeurs des mamelles. Et donc, et elle peut être faite sur un organisme qui est tout à fait résistant. Aux États-Unis, en Australie, dans les pays anglo-saxons, les chiennes sont stérilisées, et les chiens aussi d'ailleurs, entre 2 et 3 mois. Oui. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. La limite, c'est de pouvoir supporter l'anesthésie et l'opération. La prévention des tumeurs des mamelles est toujours extrêmement efficace jusqu'aux deuxièmes chaleurs.
OK.
Donc, vous êtes tout à fait dans le temps favorable pour que la stérilisation effectuée maintenant, avant la deuxième chaleur, soit une prévention très, très performante des tumeurs des mamelles. Donc, c'est le moment.
Parce que, oui, elle les a eues au mois de décembre.
Donc, elle aura sans doute les suivantes, si elle est cyclée classiquement au mois de juin. Donc, vous avez trois mois devant vous pour le faire tranquillement.
D'accord. Donc, là, voilà, vous raccrochez, vous appelez votre fœtus préféré et zouf.
Eh bien, je vous remercie beaucoup.
Avec plaisir, Jacqueline. Merci. À bientôt.
Merci infiniment.
Merci. Au revoir.
Bonne journée. Pareil pour les chats.
Hein. Bien sûr. Est-il vrai que ça prolonge la longévité de notre animal ?
Statistiquement, oui, puisqu'il y a une très forte prévalence, c'est mot technique, la plupart des chiennes sont susceptibles de faire des tumeurs des mamelles dans leur vie, à peu près 50%.
Ah, c'est beaucoup.
Et la plupart des chiennes sont susceptibles au cours de leur vie, si elles ne sont pas stérilisées, bien sûr, de faire également des infections ou des tumeurs de l'utérus. À peu près 50% aussi.
D'accord.
Donc, il y en a une sur quatre, à peu près, qui va faire les deux.
Ah, super.
Ouais. c'est donc, statistiquement,
donc, ça vaut
la
peine de le faire.
Le fait de stériliser très tôt, moi, j'aime bien avant 6 mois, mais très tôt,
c'est bénéfique pour la santé.
Ouais, tout à fait, c'est un bénéfice pour la santé du chien.
Pour les mâles, c'est pareil ?
Pour les mâles, c'est pareil, sauf que la prévalence, la statistique d'occurrence des maladies de la prostate est beaucoup moins importante.
D'accord.
Donc, c'est toujours préventif, mais c'est beaucoup moins important.
Voilà, puis c'est pas obligatoire.
Et toutes ces statistiques sont. ça, c'est un. On pourrait parler de ce sujet sur le fétichisme du testicule.
Non, enfin, j'ai eu un mal, je ne l'ai pas fait gaffe.
C'est un peu sociétal. Mais c'est rigolo parce qu'on castre les chats. Et on castre pas les chiens.
Ben oui, parce que oui, pourquoi d'ailleurs ?
Eh bien, c'est une question intéressante qui ne relève pas du vétérinaire.
Merci beaucoup.
Mais du sociologue ou du psychologue.
C'est dans la tête des gens, ça.
Ouais, c'est dans la tête des gens. C'est culturel, c'est culturel.
C'est un peu comme
dans les milieux anglo-saxons, on castre d'abord les mâles.
Ah oui,
c'est vraiment culturel, probablement avec des principes plus ou moins religieux.
Ah,
et avec une base dans les pays latins, là, il y a une sacralisation de la maternité.
C'est vrai.
Et donc la stérilisation a longtemps été mal vue. Et moi, je me souviens, il y a donc quelques dizaines d'années, quand j'étais à l'école vétérinaire, on avait un prof à l'époque un peu âgé qui préconisait que les chiennes étaient des portées, que les chattes étaient portées, en expliquant que le bon Dieu les avait fait pour ça.
D'accord, ben pourquoi pas après tout. Le 05 59 98 09 09. Si vous voulez, c'est Nicolas, notre vétérinaire, qui est avec vous ce matin jusqu'à 10h moins le quart.
France Bleu Béarn. France Bleu.
Petit portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais, dans mon building tout de verre et d'acier. Je prends mon job, un rail de coach, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien, c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts vont raser mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés. I'm here.
devenu poussière. Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile.
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations.
Deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Manhattan Kaboul, Renault et Axel Red.
La vie en bleu.
On va rassurer tous les fans de Renault, il n'est pas hospitalisé, il est dans une maison de repos pour se reposer. C'est lui qui l'a déclaré à l'AFP. Donc, non, mais je ne mets pas en doute, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Il faut croire tout ce qu'on nous dit. Nicolas, notre vétérinaire, notre expert ce matin, et nous avons Samia Didron qui a une question à vous poser. Bonjour Samia.
Bonjour. Tout le monde. Voilà, je vous appelle parce que on a un bosseron. Donc, qui doit faire pas loin de 40 kilos.
Eh oui.
T'as quel âge?
Deux ans.
Ouais.
Donc, assez fougueux. Et on a essayé beaucoup de choses et il tire toujours en promenade. Mais moi, je peux plus le tenir. Ah. Bien simple.
C'est lui qui vous promène, quoi.
Oui, même moi, je crois que si je mettais un parachute, je ferais du...
Du parapente.
Mais voilà. Tentez, vous feriez du parachien.
Du kite.
Voilà.
Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Alors,
donc
pourquoi
on a beaucoup de choses, hein.
Pourquoi les chiens tirent d'abord? Parce que le bosseron de Madame Samia.
Parce qu'il est pressé.
D'accord. Bon, ça, c'est une première explication.
Alors, je réfléchis parce qu'il y a tellement de niveaux de réponse que c'est assez compliqué. Ouais. Mais il y a un premier niveau de réponse sur le fait que le chien dirige peut-être un petit peu la maison. Et ça peut être un motif pour le chien d'exercer le contrôle habituel au cours de la promenade en tirant sur la laisse.
C'est moi le patron.
Ouais, ça peut être un chien qui se contrôle pas très bien. Ça peut être un chien qui a pas très bien compris.
Aussi.
Qu'on devait le diriger quand on le faisait marcher en laisse. Donc il y a plusieurs niveaux de réponse et je vais pas en orienter plus sur l'un que sur l'autre. Je vais dire deux choses. La première, c'est je pense qu'il faut prendre les conseils d'un éducateur.
Il a fait un peu d'éducation.
Avec le clic aussi. Avec le clic, Samia, vous avez essayé le clic? Ouais. Ah oui, moi aussi, j'avais vu ça dans ma jeunesse.
Pour ma chienne, donc je suis habituée avec le clic, mais avec lui, c'est pas rentré.
D'accord.
On a essayé les différentes laisses, là, qui bloquent.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a les laisses.
Les grosses laisses en rouleur, là?
Non.
Ça va pas marcher.
Pas le système de laisse, le système de harnais. Le système de harnais.
Oui, voilà, on a essayé. Quand il était plus jeune, moi, je réussissais à le promener tranquillou, hein.
Oui, donc c'est probablement parce qu'il est. C'est pour ça que je disais qu'il y avait plusieurs niveaux de réponse. Hein. Si le chien est très très décidé à exercer un certain pouvoir, disons, au cours de la promenade, ça peut suffire à le motiver, même si on essaye de l'entraver.
D'accord.
Donc je dans un cadre comme ça veut dire qu'il faut peut-être agir aussi à d'autres niveaux avant d'envisager ce contrôle-là. Je veux dire par là que le chien qui n'est contrôlé à aucun moment de sa vie familiale ne comprend pas bien pourquoi on essaie de le contrôler au moment de la promenade.
Alors pour ceux qui écoutent, ça veut dire quoi, contrôler?
On lui a donné de l'éducation, quoi. Il nous écoute à la maison quand même. Hein.
Oui, alors par exemple, si jamais je viens chez vous, est-ce que je vais être touché par le chien d'abord ou par vous?
Par nous.
Ouais, le chien reste en arrière.
C'est-à-dire qu'il est un peu brutus, donc on fait attention. C'est vrai que quand il y a quelqu'un qui vient, il aurait tendance à vouloir, mais on essaye de faire attention par rapport à ça, on fait attention. Mais normalement, il essaie de nous écouter.
D'accord. Enfin, je donne cet exemple-là, le passage de porte aussi. Est-ce que c'est le chien qui franchit la porte devant vous au besoin en vous bousculant ou est-ce que vous arrivez à le faire rester en arrière
non,
de façon...
On arrive en se fâchant quand même, hein, parce qu'il est.
C'est ça, en fait.
Non, normalement, il reste derrière.
Donc, on a peut-être un chien qui est un jeune adulte qui essaye de s'imposer.
Le chef.
Et qui essaie aussi de s'imposer pendant la promenade.
Est-ce qu'il mange avant vous ou après vous?
Après.
Ça, c'est bien.
Et il n'accède pas à votre nourriture non plus pendant que vous mangez?
Non.
Personne lui donne à manger à table.
Sûr, mais non, normalement, il reste. On essaie de le faire mettre à sa place.
D'accord. On essaie, à chaque fois, vous essayez. Bien, donc, le chien doit être un peu un vendicateur, quand même, si vous essayez à chaque fois.
Non.
Comme dit Nicolas, si vous voulez savoir qui c'est qui donne à manger à table, regardez où le chien se place.
Non. Comment dire, c'est plus la petite. On a une petite chienne, c'est plus celle qui viendrait. Lui, non. C'est vrai que. Non, quand on mange, ça va, il arrive à rester.
De toute façon, l'idée, c'est de déterminer si le chien a une motivation qui est une motivation simplement physique, de fort, parce qu'il tire sur la laisse, ou s'il y a une motivation sociale également associée, dans laquelle il faudrait clarifier un petit peu la situation pour lui expliquer que vous dirigez les choses. Moi, je crois que engager de toute façon une épreuve d'effort avec le chien dans ce cadre-là n'a pas de sens. Et donc, il faut rechercher plutôt la motivation. Et je pense que il faut rechercher une motivation, soit par du jeu, soit par des récompenses. Consacrer des temps de promenade. Alors, je vais préciser, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais.
On peut faire une pause si vous voulez, on revient. C'est mieux.
Je vais juste.
Samia, c'est mieux. Hein, Samia, vous restez avec nous et on continue cette conversation. À tout de suite.
La vie en bleu, à retrouver sur FranceBleu.fr.
On a tous une chanson de Souchon qui nous traîne, un vieux col roulé qui nous gêne. Rentrer une odeur de trousse dans nos souvenirs. On a tous toutes ces choses qui durent et qui tiennent. Un vieux poster de Saint-Étienne, des mots qui nous ont démolis, des je préfère qu'on reste amis. Toutes ces pierres sur lesquelles on se glisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du monde. Semés dans le passé, qui nous poussent et qui nous font pousser, cachés là au fond du mental, ce sont les choses fondamentales. On a tous une bonne odeur de tarte aux pommes, une chanson super en automne, un vieux couloir qui fout la frousse. Amoureuse en collégienne, des prénoms qui soudain reviennent devant des vieilles photos d'élèves. Ce qui nous a élevés nous élève. Toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales. Toutes ces pierres semées dans le passé, qui nous pousse et qui nous font pousser, cachés là au fond du mental, ce sont les choses fondamentales. Si un jour je me désaccorde, même perdu, déboussolé, je ferai résonner la corde, la note sur laquelle j'ai poussé, toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse. Font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales, toutes ces pierres semées dans le passé, qui nous poussent et qui nous font pousser, cachées là au fond du mental, ce sont les choses fondamentales. On a tous toutes ces choses fondamentales.
Calogero est fondamental.
France Bleu aime le cinéma.
Action. Sébastien.
Belle et Sébastien sont de retour dans une ultime aventure, mais une grande menace les attend.
Vous avez déjà regardé Joseph dans les yeux ? Il n'y a que le vide et la mort.
L'ancien maître de Belle est prêt à tout pour la récupérer.
Elle n'est pas à vous, Belle.
Sébastien va devoir braver tous les dangers pour la protéger.
On ne va pas se laisser faire.
Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre de Clovis Cornillac. Déjà au cinéma en Auvergne-Rhône-Alpes et partout en France le 14 février. Plus d'infos sur francebleu.fr.
Lui, c'est Nanouk l'Esquimau. Il a des crevasses au bout des doigts. Ça fait très mal.
Heureusement, Urgo a développé Filmogel Crevasse Main. Un film transparent qui referme, protège et soulage.
Oh. Urgo Filmogel Crevasse, traitement des crevasses. Dispositif médical. Pour plus d'informations, consultez la notice avant utilisation ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.
Nous sommes en compagnie de Nicolas, notre vétérinaire, et de Samia, qui a un bosseron qui a 3 ans, c'est ça Samia ? Oui, elle est partie, Samia.
Non, non, je suis là.
Ah, pardon.
Allô ?
Il a bien 3 ans, votre bosseron.
Non, c'est... non, deux.
Deux. Et il tire beaucoup sur la laisse, et voilà. C'était une question. Et Nicolas avait commencé à converser avec vous en essayant de savoir quel était l'avis de ce chien.
Et je voulais juste dire que l'épreuve de force était complètement à éviter. Il faut chercher une motivation pour le chien à rester près de vous.
Ouais.
Il faut prévoir également, lorsqu'on commence une sortie, dans une sortie, il y a des moments de contrôle et des moments pas de contrôle. Et l'erreur qu'on fait souvent sur un chien qui échappe un peu, c'est d'essayer de le contrôler tout le temps. Et ça, c'est très difficile. Donc il faut prévoir un moment où, si c'est possible, on le lâche,
oui.
Et où il évacue le trop plein d'énergie.
Ça, on le fait.
Et un moment où on travaille et où on lui dit on travaille. J'aime bien associer un collier spécial, un dispositif spécial qui indique au chien qu'on travaille.
Uh-huh.
Et on lui dit on travaille. Au départ, les séances de travail peuvent durer une minute, 30 secondes, très bref. Mais dans lesquels on essaie d'obtenir que le chien suive. Et on le récompense à chaque fois. Et le chien doit trouver une motivation à faire cet exercice-là. Donc ça suppose qu'il soit dans de bonnes dispositions, c'est pour ça qu'il faut le lâcher avant pour qu'il n'ait pas envie de tirer. Et l'exercice sur lequel vous essayez de l'attirer, sans tirer avec une laisse évidemment. Hein.
Mm-hmm.
Il faut qu'il y ait la laisse, mais il faut qu'il vous suive. Donc taper dans les mains, courir, porter une récompense, quelque chose, mais obtenir que le chien soit après vous.
D'accord.
Oui.
C'est en multipliant ce type d'exercice que vous obtenez que le chien soit attentif à vous lorsque vous mettez la laisse.
D'accord, on va essayer.
Ça prend du temps. Et réfléchissez bien quand même aux prérogatives que vous lui laissez, parce que être le contrôleur du chien est vraiment un préalable indispensable avant de le diriger en promenade.
Ah, surtout qu'il.
Sinon, il vous défend. Hein.
Bien sûr. Merci.
Oui.
Merci
oui,
Samia.
Merci à vous.
À bientôt.
Bonne journée,
au revoir.
Merci. Marie de Soumoulou est avec nous. Elle va nous parler d'un énorme gros chat avec des grands poils. Bonjour Marie.
Bonjour à tous.
Bonjour.
À tout le monde. Oui, j'ai un gros chat. Beau chat, et qui a un gros problème. Enfin, c'est moi aussi qui ai le problème.
Ah.
C'est-à-dire que mon Maine Coon, il a 22 mois. Je l'ai fait castrer, mais il avait 14 mois à peu près.
Mm-hmm.
Donc maintenant, il a le droit de sortir, il fait ce qu'il veut.
Mais...
Et le problème, c'est que je n'ai pas été assez attentive pour le brosser. Il a des bourres. Et il se gratte, il saigne. Donc hier, je lui ai mis de la bétadine. J'ai une carde, donc je le carde. Je coupe avec des ciseaux quand je peux, mais le pauvre, faudrait presque que je le rase. Et ça, c'est un peu embêtant.
Non,
mais ça lui fait mal. Donc
c'est pas la saison, mais c'est pas embêtant.
Alors, ouais. Marie, Nicolas.
Non, c'est pas la saison de le raser, mais c'est pas embêtant de le faire, hein, si avec cette solution-là. Je pense que si c'est arrivé à un stade où il saigne, ce serait bien d'avoir recours à une toiletteuse.
D'accord.
Il y a des toiletteuses qui font les chats.
Les toiletteuses font le chat, la plupart. C'est l'inverse.
Avec des gants de contention.
Il y a quelques toiletteuses qui les font pas, mais la plupart les font.
D'accord.
Et si le chat est assez sympa, souvent avec la propriétaire, du reste, dans ce cas-là.
Qui apaise
le chat, et ça dépend hein, jusqu'à quel point il est atteint. Et lorsque le niveau de blessure, disons, de la peau, ou de dangerosité qu'il y a à couper les poils est trop important, on a recours à une anesthésie. Donc on a quelques chiens, qu'on a chats, qu'on anesthésie régulièrement pour que la toiletteuse puisse faire son travail.
D'accord. Voilà Marie.
Ah, et on peut pas... Donc moi, je peux pas, en faisant très attention et tout,
ah, si.
Ça partira pas.
Si, bien sûr. C'est un jeu de patience.
Parce parce que là, c'est autour du cou, c'est ça qui est embêtant, c'est pour ça qu'il se
gratte. Je sais.
Donc j'ai pas d'autre solution.
Mais je pense que c'est intéressant, même s'il reste quelques choses que vous ferez tout seul, c'est intéressant d'avoir recours à une toiletteuse.
Une bonne fois,
c'est chacun son métier, il y a une technique pour démêler les poils, pour les couper, et elle pourra vous montrer comment faire.
Voilà ma fille.
Mais je vous remercie.
Bon courage. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Le 05 59 98 09 09. On va vite parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend déjà au standard pour Nicolas, notre vétérinaire, qui est avec nous jusqu'à 10h moins le quart.
France Bleu Béarn.
Vertige de l'amour, Alain Bachung. Dans quelques toutes petites minutes, Marie est à Bière. Elle va nous parler de son bichon.
France Bleu. Michel Leeb a choisi France Bleu pour fêter ses 40 ans de carrière avec son grand one-man show anniversaire.
Cette année, je fête mes 40 ans de scène avec France Bleu. Swing et comédie, c'est un véritable spectacle de music-hall, comme je les aime.
Michel Leeb, accompagné par 5 musiciens, dans un one-man show anniversaire à son image, avec ses meilleures parodies, imitations et sketchs désormais cultes.
40 ans de bonheur en scène, 2 heures de plaisir à partager bientôt avec vous, chez vous.
Bon anniversaire Michel Leeb. Spectacle en tournée dans toute la France.
Place disponible dès maintenant dans les lieux habituels. Une tournée France Bleu.
Rendez-vous sur France Bleu et sur francebleu.fr.
Nicolas, notre vétérinaire est là pour vous ce matin. N'hésitez pas, on vous attend. Voici Marie qui est à Bière. Bonjour Marie.
Bonjour à tous. Oui, voilà ma question. J'ai donc une petite chienne de 14 mois. Et puis voilà qu'elle me mange donc les grabillons qui se trouvent donc dans ma, dans le passage. Enfin,
oui, dans le jardin.
Il y a des grabillons partout.
Et elle mange les grabillons.
Elle en avale. Hein.
Ah.
Alors là, elle a des crises, de, elle pousse des cris. Évidemment, je pense qu'en passant à la gorge et à son estomac et à ses intestins,
oui.
Donc ça va lui faire mal. Et puis bon, mais pendant ce temps, elle ne mange pas et puis voilà.
Ah oui.
Alors je suis très 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 inquiète parce
ça,
que
ça va pas lui faire assez mal puisqu'elle y retourne. Hein.
Et en plus, elle recommence, c'est-à-dire qu'une fois que ça va mieux, elle y retourne.
Ah oui. Alors je lui ai acheté une muselière.
Ouais, vous la voyez faire.
Pour la faire sortir, la laisser sortir, parce qu'elle me demande à sortir. En plus, elle n'est pas propre. Évidemment, c'est ma faute, parce que je ne la laisse pas sortir quand il faut, parce que j'ai toujours peur qu'elle mange le gravillon.
Oui, c'est un cercle vicieux.
Donc, je la sors deux fois par jour.
D'accord.
Et en promenade.
Alors.
Mais j'ai un jardin qu'elle pourrait très bien y aller, y se promener, y courir. Non, je ne la laisse pas partir parce que je pense qu'elle me mange les gravillons.
Alors, Marie-Nicolas va vous répondre.
Vous la voyez faire quand elle mange les gravillons?
Et comment?
Vous êtes là, vous êtes présente au moment où elle le fait?
Mais oui.
Et vous intervenez?
Oui, elle le fait, alors je la prends et j'essaie de la faire sortir le gravillon, mais elle me l'avale. Plutôt. Et
alors.
Puis alors, elle ne sait pas prendre. Alors là, elle court, elle me fait courir derrière, et puis je crois que je n'ai pas assez d'autorité.
Alors, ouais, Nicolas va vous conseiller.
À 14 mois, je pense que c'est un problème comportemental. C'est pas logique hein, qu'à 14 mois elle ait cette avidité pour manger des cailloux et donc probablement c'est associé à un trouble du développement. Hein, on appelle ça du pica, la consommation d'objets non alimentaires et le pica est le révélateur probablement d'un dysfonctionnement central. Donc probablement un trouble du développement. C'est pour ça que vous y arrivez pas en fait.
Est-ce qu'elle a été enlevée?
C'est pas vous qui manquez d'autorité, c'est elle qui manque de contrôle.
Est-ce qu'elle a été enlevée de sa mère trop tôt?
Ouais, probablement.
D'accord.
Manque d'apprentissage et donc je pense qu'il faut faire une prise en charge plus globale que s'intéresser strictement à ce problème-là pour lui apprendre à se contrôler d'une manière générale.
Donc il faudrait qu'elle aille voir un vétérinaire comportementaliste comme vous.
Il faut travailler là-dessus, oui.
D'accord. Marie. Ah, on l'a perdu. Là, voilà, Marie.
Donc,
le mieux, c'est d'aller consulter un vétérinaire comportementaliste.
Il faut une prise en charge globale. On ne peut pas s'intéresser à ça séparément.
Merci.
D'accord,
merci
Marie.
Beaucoup.
À bientôt. Mais on sent Marie super angoissée. Et c'est
bah
tout
oui.
à fait normal. Gisèle de Bière aussi a une question à vous poser. Donc, vous allez juste poser la question et on vous répondra après. Bonjour, Gisèle.
Bonjour. Bonjour tous les deux.
Alors, qu'est-ce
qui
vous
arrive? Oui, moi, j'ai une petite chatte qui vient me faire des câlins. Et qui, d'un seul coup, sans savoir pourquoi, elle me mord.
Ah, mais ça, c'est une bonne question.
Alors, elle me mord les mains, mais si je cache mes mains, elle peut me mordre le menton, la joue, alors qu'elle vient chercher les caresses.
On vous répond juste après une pause. À tout de suite.
France Bleu Béarn.
Dab 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 d
Eh bien, The Doop Song, voilà, et Doop Wadoop, et voilà, c'est très bien, c'est très bien.
9h-11h, La Vie en Bleu, sur France Bleu Béarn.
Alors, mesdames, messieurs, c'est l'émeute au standard, mais on pourra prendre Gisèle. Donc Gisèle, vous, vous avez un chat qui vous mord, et Nicolas disait, c'est de l'amour.
C'est de l'amour, ouais, mais c'est de l'affection, c'est de l'amour. C'est une tension émotionnelle dans le contact qui conduit le chat à soulager cette tension-là en prenant en bouche. Il vous fait mal, il serre fort ?
Ben, il me fait mal, oui.
Mais il est petit ou il est grand ?
Ah, c'est une fille, elle a 2 ans et demi.
Oui, elle est déjà grande, 2 ans et demi, oui, c'est oui, un bébé quand même.
Ouais. Alors c'est vrai que, est-ce que ça vient, elle n'a pas été sevrée, hein. Je l'ai eu petit, j'ai donné le biberon pendant 3 mois.
Oh, ouais. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une relation avec ça.
Est-ce que c'est un débordement d'amour ou une agressivité ?
Non, c'est certainement pas de l'agressivité, c'est une tension. Je ne crois pas que c'est un rapport avec le sevrage ou l'apprentissage initial. Il y a des chats qui, de manière spontanée, en fait, au moment où ils ont une tension émotionnelle forte, donc c'est vraiment de l'amour, je ne plaisante pas, éprouvent le besoin de soulager cette tension en serrant quelque chose en bouche.
Alors qu'est-ce qu'elle peut faire pour qu'elle serre moins fort ?
C'est pas facile. Je pense qu'il faut... Il faut essayer de repérer le moment où elle va le faire.
Oui, c'est difficile. Et elle ne montre pas avant.
Non, il y a une tension très soudaine qui apparaît, mais quelquefois il y a un battement de queue quand même ou une tension corporelle qui apparaît qui laisse penser que ça va le faire. Et à ce moment-là, mettre un peu de distance. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas la punir dans ce cas-là.
Ah non, faut pas la griser.
Non, mais il faut pas accepter non plus parce qu'elle s'arrête pas autrement.
Non, mais il faut l'éloigner.
Alors moi, ce que je fais, c'est que je sors de la pièce. Je la laisse là, je sors de la pièce.
Ouais, et vous revenez au bout de combien de temps ?
Moi, je reviens, je sais pas, au bout de 10 minutes, 5-10 minutes.
Ok, alors revenez plutôt au bout de 30 secondes.
Ah bon, d'accord.
En fait, l'apprentissage, si vous voulez, il y a un excès de tension qui est lié au contact.
Ouais.
Vous rompez le contact, cet excès de tension redescend, et il redescend très vite.
D'accord.
Et donc, oui, pour un apprentissage, en fait, il est intéressant qu'elle puisse se rendre compte que lorsqu'elle vous mord, vous partez, mais que vous revenez aussitôt et qu'on peut recommencer. Et si elle remord, vous repartez de la même façon et sans commentaire. Vous ne lui expliquez pas la vie, en partant. Vous vous éloignez, simplement.
Oui, oui.
Mais ça marche aussi si on jette le chat, si on pousse le chat assez violemment au moment où il mord, il associe les deux événements et donc il fait attention, il réfléchit avant de mordre.
Eh oui, non, faut pas que j'ai une réaction, violente. Je dirais, un peu violente, quoi. Non,
faut juste se lever, partir.
La pousser, faut la virer. Voilà, quand je la virer, je la virer sèchement, forcément. Mais vous la poussez juste à 50 cm et vous arrêtez de bouger. Vous lui parlez plus, vous bougez plus.
Si et si elle veut revenir, ça, elle revient. Elle m'attaque un peu, quoi. Elle revient,
Mais il faut qu'elle puisse revenir.
Ah bon, d'accord.
Et vous la repoussez à chaque fois.
Oui, si elle revient.
Voilà.
En fait, il faut qu'elle puisse revenir.
Quand elle fait ça, je la gronde, évidemment, parce qu'elle me fait mal.
Non, ne la grondez pas. Vraiment, ça sert à rien. En plus, c'est tellement décalé par rapport à son intention de se faire gronder qu'elle comprend pas du tout ce que vous faites.
Ah oui.
Elle est en pleine affection et tout d'un coup, vous vous énervez. C'est pas très clair. Et en fait, en l'éloignant, en la laissant revenir et en reprenant un contact très apaisé, il doit y avoir un apprentissage qui se fait. C'est long, mais il doit y avoir un apprentissage qui se fait.
Bon, bah, courage, Gisèle.
Par contre, elle ne contrôle pas et c'est de l'affection.
Merci à vous.
Alors là, il reste 1 minute 30. Il va falloir aller vite. Au revoir, Gisèle. On va accueillir Yolande, qui est à Saumoulou et qui va nous parler de son charpé. Bonjour, Yolande.
Bonjour, Isabelle. Bonjour, Nicolas.
Bonjour.
Il n'y a pas beaucoup de temps. Je vais faire vite.
C'est gentil.
C'est le charpé de mon fils et qui ne supporte pas d'être tout seul. Alors, il s'attaque aux portes, il bouffe tout, quoi.
Ouais.
Alors, on lui a donné de l'homéopathie, on a tout essayé et rien n'y fait. Mmh. L'autre jour, il a même sauté du balcon.
Ah oui. Mais il reste combien d'heures tout seul dans la journée ?
Là, c'était pas longtemps et.
D'accord. Quel âge il a ?
Vers les 7 ans, 7 ans à peu près.
En fait, les charpés sont souvent des chiens très autoritaires.
Oui.
C'est pas du tout rare. J'aime pas trop les préjugés raciaux, en général.
C'est vrai que vous dites que tous les chiens ont.
Mais l'écharpé autoritaire, j'en vois beaucoup. Et là, ce que vous racontez, surtout la destruction au niveau des issues, c'est un accès de colère. Donc c'est un chien qui ne supporte pas qu'on parte parce qu'il ne contrôle pas le départ. Ouais. C'est pas parce qu'il est en détresse parce qu'il est seul. Le chien en détresse parce qu'il est seul a des destructions, le cas échéant, qui sont motivé par ses émotions. Donc c'est plutôt des objets avec l'odeur du propriétaire, d'accord, etc. La destruction aux issues, c'est vraiment caractéristique du chien qui manifeste sa colère.
Qui est en
et voilà. Donc si ce chien est en colère, c'est qu'il pense qu'il devrait avoir le pouvoir de contrôler les entrées et sorties. Voilà, ouais. Et donc il y a un travail à faire, un peu comme le chien qui tire en laisse. Ouais. Il y a un travail à faire pour essayer de savoir qu'est-ce qui lui donne cette illusion dans son mode de vie.
Est-ce qu'il l'a toujours corriger fait ça.
Oui, il l'a toujours fait. C'est un chien qui est très peureux. Il se laisse pas caresser non plus.
Mais il a été désociabilisé. Il fréquente pas d'autres chiens et d'autres gens.
Aussi, si, mais il vient ici chez moi. J'ai le chien de mon second fils qui est malinois.
Ouais.
Et ils jouent ensemble. Et puis alors là, de temps en temps, c'est le malinois. Je pense que c'est des crises de jalousie et il l'attaque vraiment, quoi.
Mais les mâles entre eux, c'est un peu compliqué. Alors le seul conseil rapide, c'est consulter. On peut l'imaginer.
Il faut consulter.
Avec un comportementaliste.
C'est une détresse. Hein. C'est une colère qu'on doit pouvoir contrôler.
Comprendre, avec ou sans
médicaments, mais surtout comprendre, oui, tout à fait, pour créer un cadre de vie dans lequel le chien n'a plus cette illusion-là.
Hein. D'accord, Yolande, il faut consulter un véto comportementaliste.
Vous en connaissez dans le coin ?
Plein. On vous embrasse, on va vous donner des numéros de téléphone, d'accord ?
Merci beaucoup. Bonne
courage,
journée.
Merci beaucoup Yolande. Alors il y a plein d'auditeurs, on les embrasse. Désolé, on ne pourra pas encore vous accueillir à l'antenne ce matin, mais Nicolas, vous allez revenir très vite.
Bah oui.
Et ben voilà, très bien, et surtout ne baissez pas les bras. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Non ? C'est pas vrai ? Oui,
plusieurs solutions.
Plusieurs solutions, c'est encore mieux. Cette émission est à réécouter, bien entendu, sur francebleu.fr. Cher Nicolas, bonne journée.
Bonne journée.
La vie en bleu, à retrouver sur francebleu.fr.